Bonjour à tous et à toutes. En ce jeudi saint et ce premier jour du Triduum Pascal, c'est une table ronde consacrée aux oblats bénédictins que je vous propose, ces hommes et ces femmes qui, sans être moines, s'engagent à vivre selon la règle de Saint Benoît dans leur vie quotidienne. Qui sont-ils? Comment cette démarche peut-elle s'intégrer dans la vie moderne? Ces hommes et ces femmes, sans être moines, choisissent de vivre selon Saint Benoît. Nous reviendrons sur l'histoire de cette vocation et la manière dont elle s'incarne aujourd'hui. Quelle est la différence entre un moine vivant dans un monastère et un oblat vivant dans le monde? Comment la règle bénédictine, avec ses valeurs de prière, de travail, s'applique-t-elle à une vie active et familiale? Nos invités, François Bonneux et Elisabeth Bonaventure, sont ici présents pour cette table ronde du jour, en ce temps particulier, puisque nous entrons depuis aujourd'hui dans ce Triduum Pascal et en cette journée spéciale Jeudi Saint. Bonjour Elisabeth Bonaventure.
Bonjour madame.
Vous approchez bien du micro.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes oblate bénédictine depuis bientôt 30 ans et nous pourrons dans quelques minutes aussi vous rejoindre et écouter un peu le comment, le pourquoi d'un tel engagement dans votre vie, tout court, votre vie de femme. À vos côtés, François Bonneux. Bonjour.
Bonjour.
François Bonneux, vous êtes vous-même oblat bénédictin, vous avez aussi votre parcours, votre histoire avec un engagement depuis 10 ans. Alors dans cette émission spéciale du Jeudi Saint consacrée aux oblats bénédictin. Racontez-nous un peu, François Bonneux, votre appel à devenir oblat bénédictin. Et merci.
Bon, c'est en fait une histoire toute simple, mais quand même un peu compliquée, parce que je suis parisien. C'est-à-dire que, originaire du Sud-Ouest, je suis né à Tarbes, mais à l'âge de 18 ans, je suis devenu étudiant à Paris, j'y suis resté. Mon épouse, je l'ai rencontrée en Ile-de-France. Et donc, nous habitons toujours en Ile-de-France, banlieue sud, à Antony. Voilà, nous avons 5 enfants, 12 petits-enfants, donc une famille nombreuse. Et nous sommes engagés, enfin voilà. Alors, comment ça se fait? Moi, je connais l'abbaye de Tournai depuis ma tendre enfance. J'y allais avec mes parents. Et puis finalement, au fil des ans, mon épouse qui a appris à connaître les Pyrénées, parce qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans les Pyrénées avant de me connaître, elle s'est prise de passion pour les Pyrénées d'une part, et puis pour cette abbaye d'autre part, comme moi. Et donc en fait, au fil des ans, nous fréquentons de façon régulière cette abbaye, nous avons progressivement été touchés par ce que nous avons perçu de la communauté. Ça nous a fortement touchés. C'est-à-dire une simplicité, une sobriété joyeuse, un accueil inconditionnel et une volonté de conversion permanente. Voilà. Et le souci d'aller à l'essentiel. Voilà. Moi, j'ai appris un grand message à Tournai, c'est d'être présent à la présence. Et ça, c'est fort. Et donc, nous avons, comme nous y passons de temps en temps, nous y avons passé quelques temps de réflexion, de retraite, nous sommes tombés sur la règle de Saint Benoît. Et nous l'avons lue, nous l'avons méditée. Et puis, finalement, nous en avons parlé, nous avons eu l'occasion d'en parler avec quelques oblats plus anciens, comme Elisabeth ou comme d'autres. Et puis, finalement, nous avons compris progressivement que ce qui caractérisait cette règle, c'est cette façon d'unir des choses en apparence contradictoires, quoi, en fait. C'est-à-dire comme la recherche d'une intériorité, d'un dépouillement intérieur, ça c'est important. La recherche et le désir, finalement, de s'engager pour œuvrer dans le monde et le rendre plus humain, plus fraternel. Ça nous a beaucoup interpellés. On était déjà tous les deux, Marie-Noël, mon épouse et moi, engagés, puisque, effectivement, Marie-Noël a été... Pendant une douzaine d'années, elle a fait des soins palliatifs, donc ça fait déjà un certain nombre d'années. Et puis après, elle a souhaité être responsable, en tant que bénévole, chaque fois, bénévole dans un centre d'accueil hivernal de personnes en grande difficulté, des SDF, quoi, en fait. Et puis, depuis 8 ans, depuis que nous sommes oblats, donc depuis une dizaine d'années, finalement, elle s'est engagée dans l'aumônerie des prisons. Donc, elle a découvert, finalement, le problème des prisons en étant s'occupant d'un centre d'accueil pour des personnes qui bien souvent en sortaient et qui se retrouvaient à la rue, laissées à eux-mêmes. Et donc cela nous a progressé, enfin ça l'a, de son côté, fortement interpellé. Et puis elle a décidé de s'engager comme ça dans l'aumônerie des prisons. Et aujourd'hui, on lui a donné un certain nombre de responsabilités régionales, mais elle continue à aller à Fresnes, puisque c'est la prison où elle a démarré il y a 8 ans, et elle continue toujours à y aller régulièrement. Voilà, c'est pour ça que nous sommes le Triduum Pascal, nous sommes le Jeudi Saint, mais en fait, elle est avec les personnes détenues à Fresnes, où elle est en tant qu'aumônière, elle intervient dans un certain nombre de cérémonies qui sont préparées, organisées.
Alors, on a un peu préparé cette table ronde du Jeudi Saint, spéciale marque des Oblats bénédictins. Je crois, permettez-moi, François Bonneau, que vous êtes apparemment, d'après les informations que me donnait hors antenne, Madame Elisabeth Bonaventure, que nous allons entendre dans quelques minutes, vous êtes un peu l'unique couple oblat bénédictin.
Alors voilà, c'est vrai que nous avons, nous sommes mariés, il faut le dire, depuis 50 ans. Cette année, nous fêtons nos 50 ans de mariage. Donc c'est ravissant, c'est merveilleux. Et nous le fêterons à Tournailles, notamment. Bien que parisien, on se déporte parce qu'on vient passer très souvent nos vacances dans les Pyrénées, que l'on aime beaucoup. Voilà. Et effectivement, avec Marie-Noël, mon épouse, nous avons estimé que c'était quand même plus simple. Puisque notre démarche, finalement, quand on s'est marié sur la base de valeurs partagées, et notamment d'une foi commune, qui a donné un certain nombre de fruits au fil des années qui passent. Et puis on s'est dit, cette démarche-là, ça nous correspond et on le sent bien. Voilà.
Je peux vous demander quels étaient un peu les critères de discernement de l'un comme de l'autre pour faire ce même engagement à l'abbaye de Tournailles en tant qu'oblat bénédictin?
La règle, moi, m'a beaucoup apporté. La règle m'a beaucoup apporté.
C'est-à-dire
Parce que elle date du VIe siècle. Ça veut dire que le chemin... finalement, c'est un chemin qui est millénaire, enfin, qui est vraiment très, très long. Et moi, ça me parle, ça m'importe de dire, finalement, je ne suis pas le premier à être tombé comme ça dans l'oblation. Il y en a eu comme ça toute une tradition d'oblation. Et pour moi, c'est un facteur très important, parce que l'histoire est importante dans ma vie, dans la vie. Et j'ai toujours, finalement, ce poids-là, je me dis quand même, c'est fort. Parce que dans un monde fracturé, où les tas de choses comme ça se jouent sur les écrans, qui sont, finalement, me dire qu'il y a un certain nombre de valeurs importantes qui sont, et d'orientation. C'est un petit bouquin, une règle de Saint-Benoît. C'est pas long. Ça, c'est quelque chose, ça donne des repères. Donc voilà, pour moi, ça donne des repères. Étant culture montagnarde, c'est une corde à nœud. En fait, c'est une corde à nœud comme on grimpe en montagne. Bon, si j'étais marin, je dirais que c'est une boussole, mais moi je préfère cette idée de la corde à nœud, effectivement, qui permet de donner un certain nombre de repères et de dire, dans ma vie, j'ai été responsable d'entreprise effectivement, je trouve que tout ce qui est écrit sur l'animation, sur le rôle de père abbé, le rôle de prieur, le rôle des différents acteurs, finalement, dans une communauté, c'est du bon management. Moi, je ne peux que applaudir parce que c'est en même temps, il y a des repères et il y a de la souplesse. Et au final, il y a un grand respect chaque fois de la personne. Et on dit, si la règle, il faut l'adapter. Donc finalement, nous sommes avec mon épouse, parce que c'est vrai qu'on a une vie très active. Je vous ai parlé des activités de Marie-Noël. Moi, j'ai d'autres activités que j'avais commencé quand j'étais déjà, en salarié. Quand j'étais responsable de l'entreprise, je me suis été engagé, parce que vivant en Île-de-France, l'Île-de-France, c'est quand même un lieu où il y a un déficit énorme en termes de logement pour les personnes fragiles. Et tous ceux qui vivent au bord du monde, finalement. Ils ont du mal à se retrouver et à trouver les conditions, finalement, d'une vie normale. Donc, en fait, je me suis dit, ben, moi, ça m'intéresse, ça m'importe, quand j'ai eu un peu plus de temps dans ma vie, de m'impliquer dans un mouvement qui habitait l'humanisme. Et puis là, parce qu'on fait du logement, mais pas que. On accompagne surtout les personnes. Habitat Humanisme, c'est un projet social, d'abord. C'est un projet fraternel. C'est un projet humain. Donc, toutes les personnes en fragilité, ben, elles ont leur place dans notre société. Et c'est ce mouvement cherche. Mouvement qui a 40 ans, hein, à peu près. Aujourd'hui, 40 ans. Eh bien, toutes ces personnes, finalement, on aide à ce qu'elles puissent se retrouver. Quoi. Donc, c'est aussi bien dans le domaine du soin, dans le domaine du handicap, dans le domaine du logement. Enfin, voilà, c'est aujourd'hui, Habitat Humanisme, en 40 ans, est devenu un acteur très important pour affronter, pour permettre à nombre de personnes de retrouver un espoir dans leur vie.
Quoi. Et retrouver aussi une dignité.
Et ouais, retrouver et une dignité.
Par la même occasion.
Voilà. Et,
oui.
Et donc, en fait, c'est ce qui a, moi, motivé. Et j'ai trouvé, finalement, dans la règle, une sorte de repère, hein, tous les repères de ma vie. J'avais pas peu fait de social dans ma vie professionnelle, parce que j'étais pas sur ce terrain-là. Et j'ai découvert finalement la vérité des relations, la vérité du lien, la vérité d'un vivre ensemble qui soit effectivement, qui permette à chacun tout simplement de vivre sa vie.
Ah, et vous semblez heureux hein, quand vous parlez aussi de cette découverte et puis de cet engagement. On va, si vous le voulez bien, retrouver, vous avez quelqu'un à vos côtés pour cette émission spéciale table ronde consacrée aux oblats bénédictines. Elisabeth Bonaventure, alors vous êtes, et vous avez aussi votre propre histoire, votre propre parcours, et puis votre histoire avec l'abbaye de Tournailles et cet engagement. Vous allez bientôt fêter l'an prochain vos 30 ans en tant qu'oblate bénédictine, rapprochez-vous bien du micro. Alors, racontez-nous comment vous avez... Est-ce qu'on peut parler donc de vocation en tant qu'oblate bénédictine? Mais en tout cas, on peut parler d'un parcours, d'une histoire, et on peut parler aussi d'un appel. Quel a été pour vous cet appel à devenir oblate bénédictine? Racontez-nous, on vous écoute et merci.
Alors d'abord, je suis déjà native de Lourdes. Donc, étant native de Lourdes, je suis déjà une enfant de Marie. Je me suis toujours considérée très privilégiée de ce côté-là. Mais après, on grandit, l'adolescence est là et les révoltes sont là. Et donc, éloignement énorme de l'Église, mais sans jamais en fait en être éloignée. Je m'en suis rendue compte quand il m'est arrivé un problème personnel dans ma vie de femme et de mère. Et je ne sais pas, une dame m'a dit, que j'ai rencontrée, m'a dit « Vous devriez aller voir à l'abbaye de Tournailles ou à l'abbaye d'Ozon, où il y avait les religieuses bénédictines d'Ozon. » Je suis allée à l'abbaye d'Ozon et puis ces dames m'ont dit « Allez voir à là-bas les moines de Tournailles. » Et notamment, elles m'ont indiqué frère Marie-Bernard. Donc, je vais à l'abbaye de Tournailles, je vais voir, rencontre la frère Marie-Bernard. Et là, une rencontre fulgurante. Il m'a happé. Là, j'ai l'image de Pierre, le pêcheur, que d'homme. Là, il m'a pêché vraiment. Oui, c'était vraiment un repêchage de ma part, de sa part à lui. Et alors, donc, j'ai assisté aux rencontres d'abord des oblats. Il m'a parlé des oblats. J'ai assisté aux rencontres. Je les écoutais. J'ai suivi les enseignements pendant au moins 3 ans. 3-4 ans, oui, bon, voilà. Et alors, donc, et puis, petit à petit, j'ai découvert la règle, d'abord Saint-Benoît. Je ne savais pas qui c'était, je l'ignorais totalement. Saint-Benoît, je l'ai découvert, et ensuite, j'ai découvert, donc, la règle, qui m'a énormément interpellée, parce qu'il y avait les mots « écoute », il y avait le mot « présence », il y avait le mot « amour », il y avait le mot « pardon », et il y avait aussi le mal. Le mal qui est là dans toutes nos vies. Et ensuite, bon, j'ai eu le bonheur d'avoir quand même un mari et une fille qui ne m'ont, avec qui j'avais partagé et qui ne m'ont jamais mis un frein. Donc, j'allais régulièrement le samedi écouter les enseignements de frère Marie Bernard et de faire la connaissance avec les autres frères et de faire la connaissance avec une abbaye, donc les moines. Donc, je ne pensais jamais que les femmes étaient autorisées à cette époque-là. Donc, c'était en 86. Donc, je disais, ah bon, voilà. Et j'ai découvert d'autres oblats. J'ai découvert une spiritualité. D'abord, les offices n'étaient pas les mêmes que ceux que je vivais le dimanche à la messe. C'était beaucoup plus, je vais dire, recueilli. C'est quand même, bon, il y a des temps de silence qu'il faut respecter. Et puis, donc, après, s'entretenir avec d'autres frères, donc, et découvrir ce qu'est la vie monastique. Et alors, donc, et j'ai appris aussi que les oblats n'étaient pas obligés d'être enfermés, au contraire. Ils étaient très ouverts parce que ça venait d'univers très, très divers, les oblats. C'était incroyable, cette découverte d'horizons divers qu'il y avait.
Qu'est-ce que vous avez justement découvert dans cet univers aussi des oblats bénédictins, Bénédicte Bonaventure?
Et alors, donc, ce que j'ai découvert, une grande amitié, une grande solidarité entre nous. Parce que bon, il y a des fois où on peut... Mais non, allez. Et une fraternité. Ça, c'était quelque chose de merveilleux, de l'amitié. Amitié aussi avec les autres. Je pense à une de mes amies oblates qui est venue habiter Tarbes. Et on s'est retrouvées comme deux grandes sœurs. Voilà, c'était merveilleux.
Vous confirmez pour vous-même, François Bonneau, cette amitié, cette solidarité, cette fraternité dont Elisabeth.
Oui, tout à fait. Les moines, c'est une communauté vraiment très différente. Si on regarde les moines qui vivent, c'est un pari fou d'arriver à vivre dans le temps long, comme ça, sur quelques mètres, enfin sur des mètres carrés, c'est grand, une abbaye, mais quand même, et de faire un vœu de stabilité. Si on regarde aujourd'hui, finalement, il y a des Français, bien sûr. Il y a des Brésiliens, il y a quatre Brésiliens. Il y a deux Malgaches, il y a deux Vietnamiens. Donc, c'est une population qui est variée, qui est différente, qui a des cultures d'origine différentes. Eh bien, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et en fait, pourquoi ça fonctionne, si on regarde bien? C'est parce que finalement, les moines, ils sont tous différents, mais ils ont une volonté commune. C'est de chercher Dieu. C'est de chercher Dieu en vivant l'Évangile dans cette forme de vie monastique. Donc ça, c'est quand même un pari fou. C'est-à-dire, ils mènent une vie de prière, ça on la vit, et puis nous on en bénéficie. Une vie de travail, c'est-à-dire qu'il faut gagner, il faut vivre. Voilà. Et d'accueil. Ça, Tournaille est un lieu d'accueil fabuleux. C'est-à-dire qu'on ne demande pas, il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, c'est un lieu, vraiment, quand on parle de l'accueil fraternel, pour moi, Tournaille est un exemple. Voilà. Et donc, ça c'est important. Donc, c'est en fait une école au service du Seigneur. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Mais alors, pour que ça tienne, cette vie communautaire, parce qu'on pourrait se dire, finalement, mais ça pourrait exploser, c'est grâce à la règle.
Et vous y revenez à cette règle de Saint-Benoît. Ah, oui. Est-ce que vous pouvez... On va se retrouver dans quelques minutes, mais avant de terminer cette première partie de cette table ronde spéciale Jeudi Saint, et j'insiste auprès des éditeurs qui nous suivent aujourd'hui, puisque nous entrons dans ce Triduum Pascal et que nous sommes ici donc à l'abbaye de Tournaille. Et on a bien entendu, c'est un point qui est important pour tous les deux, et vous venez de le soulever, l'abbaye de Tournaille est un grand lieu d'accueil qui ouvre ses portes et qui ne demande aucune carte d'identité. Donc, lieu d'accueil, lieu d'écoute aussi. Vous avez parlé aussi de cette écoute et cette vie, au fond, rythmée sur la prière, rythmée aussi sur le silence. Et on sait ô combien que c'est dans le silence, sans bruit, que Dieu passe et que Dieu vient parler au cœur. Je vous propose de vous retrouver après cette plage musicale pour revenir et découvrir peut-être avec vous et que nos auditeurs qui découvrent découvre aujourd'hui les oblats bénédictins, découvre aussi le charisme, la spiritualité de Saint-Benoît. Voilà, on va découvrir avec vous, juste après, la règle de Saint-Benoît, parce que vous en parlez beaucoup, tous les deux, depuis le début de cette table ronde. Et je vous propose d'y revenir tout à l'heure. À tout de suite, ne nous quittez pas, vous restez avec nous. Suite de cette table ronde en ce jeudi saint, premier jour du Triduum Pascal, depuis l'abbaye de Tournaille, au micro, et vous les découvrez depuis le début de cette table ronde. Je reçois Elisabeth Bonaventure, oblate bénédictine depuis près de 30 ans. Hein, voilà, oui. Bientôt 30 ans. L'an prochain, vous allez souffler vos 30 bougies.
Le 16 mars.
Le 16 mars. Et vous vous approchez bien du micro.
Hein. Oui.
À vos côtés, François Bonneau. Donc, vous restez aussi notre intervenant dans cette table ronde. 10 ans d'engagement hein, en tant qu'oblat bénédictin, et puis 10 ans, je précise, votre épouse ne pouvait pas être à vos côtés aujourd'hui pour ce Triduum Pascal à l'abbaye bénédictine, mais elle aussi est engagée comme oblate, donc vous êtes engagée en couple depuis 10 ans. On va parler, parce que vous avez évoqué cette règle de Saint-Benoît, est-ce que vous pouvez très vite nous présenter la grande règle de Saint-Benoît ? Et merci François Bonneau.
Bon, la grande règle de Saint-Benoît, on peut la résumer finalement en quelques mots. Il y a des mots qui sont au cœur. Ça décrit une vie de prière, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui finalement permet à l'homme de... Hein, voilà, de méditer, d'avoir cette vie de prière, et comme j'ai dit tout à l'heure, d'être présent à la présence, quoi, en fait. Et ça, c'est important. Mais pas que. Il y a la prière, il y a le travail, il y a toutes les activités du quotidien. Et ça aussi, c'est dans la règle de Saint-Benoît, la moindre activité, mais que ça soit comment je m'habille, comment je mange, eh ben finalement, c'est il y a une orientation.
Donc tous les petits actes de la vie quotidienne, donc ordinaires, deviennent extraordinaires au fond.
Et deviennent extraordinaires, voilà. Effectivement, à la gloire de Dieu, c'est la sobriété, c'est ne rien préférer à l'amour du Christ. C'est au cœur de la règle, ça. Et vraiment, c'est redit de façon plusieurs fois, mais c'est vraiment le cœur de la règle. Et puis, il y a un autre point, moi, qui me paraît important dans cette règle, c'est l'humilité. C'est-à-dire qu'on parle effectivement bien souvent, quand on parle des moines, on parle de la prière, de la méditation, de la lectio divina, voilà. Mais l'humilité, c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, est au cœur de cette règle. Et on se rend compte finalement que c'est effectivement, d'une certaine manière, ça a été l'attitude de Jésus. Quand on regarde l'évangile, quand on le lit et quand on le médite, on se rend compte que chaque fois l'intervention du Christ, l'intervention de Jésus, il est toujours le plus petit, le tout petit. Et venez à moi les petits enfants. Enfin, et il nous dit, il faut avoir effectivement cette orientation. C'est pas du tout de se faire mousser, de se faire ça. C'est absolument pas ça écrit dans la règle, quoi, en fait. Donc, c'est rentrer dans cette relation d'amour, cette relation avec Jésus, fils de Dieu, quoi. Et c'est... alors, pour moi, la règle, d'une certaine manière, permet d'exprimer mon amour à Dieu, moi, je trouve, en disant... Et en le remerciant pour le don de vie présente et éternelle qu'il nous fait. C'est assez fabuleux, ce don, quand on y réfléchit. Quand je vois, finalement, nombre de personnes qui n'ont pas cette vision, cette espérance, ben finalement, la vie est brutale. La fin de vie est brutale. Or, en fait, avoir une espérance dans un au-delà, c'est fabuleux. Enfin, moi, je trouve que c'est merveilleux.
Alors, moi, j'ai découvert la règle au travers de tout ce que pouvaient ces enseignements. Mais il y a des mots qui m'ont beaucoup interrogé, m'ont poussé à l'approfondir. Ça a été le premier mot, ça a été écoute, obéissance, humilité et aussi lectio divina. Waouh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que la lectio divina? Comment? Et alors, j'ai appris, et justement, c'est ce qui, je trouve, a été le déclencheur de mon engagement dans l'oblation, ça a été de mâcher, comme me disait le frère Marie-Bernard, rumine-moi cet évangile, ruminer la parole de Dieu, et t'en imprégner, t'en vivre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans mon quotidien, dans ma vie de femme, d'abord, et dans ma vie d'épouse et dans ma vie de mère. Parce qu'en étudiant les évangiles, comme par exemple l'enfant prodigue, vous avez un enfant, vous dites, mais attends, on a étudié, on a rabâché cet évangile. Après, ça a été la femme adultère. Bon, je n'ai pas fait d'adultère, mais enfin, bon, c'est cet amour du couple, cet amour. Et donc, ça a été quelque chose de fort, cette lectio divina.
Quels ont été les points forts et importants dans votre propre cheminement, parce qu'on vous entend parler aussi, c'est une parole de femme aussi, puisque vous parlez dans votre parcours de femme, d'épouse et de mère, hein. En est-il aussi de même pour vous, François Bonneau?
Et maintenant de grand-mère.
Et de grand-mère, félicitations. Mais en tant qu'époux, père, grand-père, homme d'entreprise, chef d'entreprise, oui. Voilà, quel a été un peu l'apport aussi de cet engagement et puis de cette spiritualité au fond bénédictine, et vous l'avez souligné à l'instant, l'importance aussi de l'écoute chez saint Benoît, de l'obéissance, de l'humilité et puis de cette lecture où il faut ruminer et mâcher cette parole de Dieu pour qu'elle s'imprègne profondément dans les cœurs. Qu'en est-il pour vous?
Moi, je vous répondrai en disant que quand deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Et avec mon épouse, moi, je lui dis en rigolant, on fait une petite communauté.
Et on est une communauté
on est une communauté et on a cette chance merveilleuse d'en avoir conscience. Tous les matins, on lit un petit bout de la petite règle, systématiquement, avant de réciter l'aude. Donc ça, on a pris cette habitude et donc on la parcourt, on s'en nourrit. Et, alors, il y en a où parfois on dit, bon, ça, on en est un peu loin. Enfin, c'est bon, mais quand même, c'est cette corde à nœud, finalement, on y revient tous les matins. Et puis, on lit aussi des commentaires. Par exemple, il y a de très beaux commentaires. Denis Huère, qui a été fait un commentaire de la règle de Saint-Benoît, c'est un gros bouquin avec plein de commentaires. Il avait été pendant 25 ans, je crois, père abbé à la pierre qui vire. Et on se nourrit de tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis, on en parle.
Oui, j'imagine, puisque vous êtes tous les deux oblats, donc vous allez pouvoir aussi en dire un peu plus à ceux et celles qui vous écoutent et qui vont écouter pendant ce Tridium Pascal la radio depuis cette abbaye de Tournai. Quels sont un peu les engagements pour un oblat, une oblate, au quotidien, dans sa vie de prière? Qu'est-ce qu'on vous demande très concrètement dans la vie de tous les jours, François et Elisabeth?
Moi, je peux répondre.
Allez-y, vous êtes libre.
Je me sens complètement libre.
Ah, j'ai le mot de liberté.
Je me sens un homme libre.
Et heureux.
Et heureux.
Oui, c'est ce que je vois et j'en suis témoin.
De cette liberté. Et donc, en fait, on est rentré dans un mode de fonctionnement, je dirais, de vie à deux, où tous les matins, on récite l'aude ensemble. Et c'est bien, on chante, quoi, en fait. Hein, c'est, voilà, dans notre petit coin prière, dans notre appartement parisien, voilà, on est... Après, on a nos occupations. Hein, mais le soir, quand on se retrouve, c'est alors soit vêpre ou complice, ça dépend de notre disponibilité, ou de notre fatigue aussi, il faut dire. Mais on essaie de moins en moins rater tout ça, parce qu'on sent que c'est un besoin. C'est devenu un
c'est
besoin.
Vital, c'est vital.
C'est vital. Vous voyez, ce matin, je l'ai fait avant de venir vous voir. Enfin, c'est même tout seul. Enfin, je sais que Marie-Noëlle, de son côté, elle l'a fait. On est en communion à ce niveau-là.
Voilà. Un tel engagement fait-il grandir aussi ce sacrement de mariage, hein, cette vie à deux, cette vie aussi d'union à Marie-Noëlle et Marie-Noëlle aussi avec son époux François, concrètement, est-ce que c'est un plus aussi pour faire grandir, en fait, même après 50 ans de mariage, cet amour et cette union et cette fidélité que vous avez choisie il y a 50 ans?
Ah oui, ça complètement. Enfin, là, je dirais, il faudrait passer la parole à Marie-Noël.
Alors, la prochaine fois, quand vous descendrez, quand Marie-Noël sera à vos côtés.
Voilà, c'est ça. Hein, mais voilà. Autre engagement aussi auquel on se tient depuis une dizaine d'années, c'est qu'on a la chance d'avoir un frère qui nous accompagne.
Donc,
qui accompagne Marie-Noël.
L'accompagnement spirituel.
Un accompagnement spirituel.
Et donc, moi, à l'abbaye de Tournaille.
À l'abbaye de Tournaille, voilà, c'est ça.
C'est un point important pour
vous.
Ah
oui, ouais. C'est déterminant et je ne saurais remercier.
Déterminant.
Ah oui, déterminant parce que c'est un point finalement où. On se voit toutes les 6 semaines, tous les 2 mois, enfin, en fonction des vacances, en fonction des. Hein, et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est une aide au discernement, clairement. Et j'ai eu des discernements importants dans ma vie professionnelle,
dans
des choix, dans mes responsabilités au niveau d'Habitat Humanisme, etc. Il faut pas croire que s'engager dans un mouvement, c'est la vie est un long fleuve tranquille. Non, c'est pas vrai. C'est concrètement, il y a énormément de difficultés, comme dans une communauté monastique, j'ai découvert. C'est aussi, finalement, la vie, tout simplement, en commun, dans le vivre ensemble. Si on est honnête, ça veut dire qu'il faut vivre aussi des temps qui sont un peu plus difficiles, quoi, en fait, hein, où il y a un peu de nuages.
Donc, d'où l'importance de l'accompagnement spirituel.
Oui, et puis, vous voyez, il m'a convaincu, je voulais dire, c'est le... il m'a dit, François, tu devrais améliorer ta formation théologique. Donc, depuis 3 ans, je suis au Bernardin, vous voyez. Donc, ça, c'est... Je n'aurais pas eu cet accompagnement. Je n'aurais pas eu, finalement, ce goût, cette connaissance, parce que... Voilà. Et donc, là, j'ai passé 1 an sur qu'est-ce que croire. J'ai passé 1 an sur l'Ancien Testament. Et là, je suis pendant un an. Mais alors, c'est toutes les semaines, hein, avec des TD, enfin, etc. J'ai un peu plus de temps, donc j'en profite, j'en bénéficie, sur l'Évangile de saint Matthieu. Et je trouve ça admirable. Et alors, comme mon épouse n'a pas le temps de venir avec moi, mais ce sont des cours qui sont enregistrés, et donc tous les soirs, enfin, on regarde. Moi, je vais au cours, physiquement, et c'est enregistré, mais c'est le système, hein, qui fait ça, c'est les Bernardins qui enregistrent.
Oui, tout à fait. Donc, on entend bien.
Et donc, j'en profite doublement.
Donc, on entend bien aussi l'importance de, et vous le soulignez, de l'accompagnement spirituel.
Ah oui.
Et puis du sérieux, au fond, parce qu'on rappelle combien il est important aussi d'être nourri et puis d'être formé.
Voilà.
Vous-même, Elisabeth Oblat, depuis bientôt 30 ans, vous vivez aussi cet accompagnement spirituel par un frère bénédictin de l'abbaye.
J'ai toujours été accompagnée et je le suis quotidiennement accompagnée, puisque j'habite quand même pas loin de Tournaille. Et j'y suis une fois par semaine régulièrement, puisque je tiens le magasin de l'abbaye aussi. Donc, j'ai la chance de pouvoir partager et d'avoir l'accompagnement spirituel que j'ai toujours eu et qui est très important à l'abbaye.
Alors, quels sont les fruits? On parle de cet engagement aujourd'hui dans cette table ronde, dans cette table ronde consacrée aux Oblats bénédictins depuis cette abbaye bénédictine, avec vos engagements respectifs l'un et l'autre. Quels sont les fruits, la fécondité d'un tel engagement dans votre vie d'homme et de femme?
Alors, quand j'ai fait mon oblature et quand j'ai découvert l'oblature, ça a été vraiment une renaissance et une résurrection. Parce que pour moi, j'ai découvert quelque chose que je sentais au fond en moi-même, mais que j'ai là, qui a explosé complètement. Alors donc, ça a été vraiment découvrir d'abord les autres, parce qu'on découvre les autres. On découvre qu'on n'est pas seul et qu'à l'abbaye, on a été vraiment l'exemple des frères qui sont là. Et on a été vraiment, moi, j'ai découvert vraiment les autres et je me suis ouverte davantage à tout ce qui pouvait y avoir comme problème au quotidien des gens. Et après, quand j'ai fait mon engagement dans l'aumônerie de la prison à Lannemezan, ça a été quelque chose de merveilleux et quelque chose qui m'a énormément apporté et qui m'aide. J'espère que je peux l'apporter aux autres aussi.
Cet engagement est important. Oui. 18 ans d'engagement,
18
je crois.
Ans d'engagement ouais, cette année.
Un engagement en tant qu'oblate bénédictine. Est-ce qu'on peut dire que cette mission en tant qu'aumônière, visiteuse de prison, était en lien
c'est
aussi avec...
C'est pas pareil,
avec...
visiteuse et aumônerie de la prison.
Alors, vous étiez...
C'est pas pareil.
Vous étiez...
Moi, je suis à l'aumônerie de la prison. Et je suis aussi dans une... dans l'accueil des familles de détenus. Et nous recevons à Lannemezan les femmes de détenus, les épouses, les mères des prisonniers.
Donc on peut parler d'un service, hein, d'un
oui,
bénévolat,
bénévolat,
d'une présence,
bien sûr.
En lien aussi, permettez-moi, en tant qu'oblate bénédictine.
Tout à fait.
C'est un plus pour la mission.
Ah oui, c'est un plus. Je n'aurais jamais pu le faire sans ça.
Pour quelle raison?
Pour quelle raison? Parce que dans l'oblature, on découvre la présence de Dieu et on a l'Esprit Saint. On a cet enseignement, cette lecture de l'Évangile quotidienne, parce que je la lis quotidiennement. Moi, je fais ma Lectio Divina quotidiennement. Ça, j'y tiens et je ne pourrais pas commencer ma journée sans la lecture de l'Évangile et sans les commentaires que je lis, que j'essaie de comprendre et tout. Et ça, c'est important. Et au travers, après, de mes rencontres avec les détenus et avec leur famille, et aussi avec le personnel de la prison. Il ne faut pas croire, hein. On est tout le temps imprégné de cette parole et on peut échanger et on peut apporter des réponses des fois.
Merci Elisabeth. Pour vous aussi, quels sont au fond les fruits, la fécondité de cet engagement depuis 10 ans que vous vivez aussi avec votre épouse Marie-Noël et puis on est toujours bien sûr à l'abbaye de Tournai avec les moines bénédictins en ce temps aussi du Triduum et en ce jeudi saint.
Oui, avec humilité, je dirais que les moines bénédictins, c'est une chose, cette spiritualité bénédictine. Mais il y a d'autres spiritualités. Ça peut être les spiritualités ignatiennes, franciscaines, carmélitaines,
que je
respecte profondément. Et peut-être que si j'avais été dans un autre environnement, si j'avais croisé d'autres personnes, je ne serais peut-être pas... Mais c'est ma vie. Donc effectivement, mon histoire personnelle qui fait qu'elle a croisé finalement cette grande histoire de la vie monastique. Je suis incapable de dire si c'est mieux ou si c'est moins bien que d'autres spiritualités, parce que c'est pas, j'ai pas ce niveau de compétence. Mais cela dit, pour moi, mon niveau, au niveau de notre couple, une chose est sûre, c'est que les défis de ce monde, sans être oblat bénédictin, ils existent, quoi, en fait, hein. Donc, que ça soit au niveau mondial, alors aujourd'hui, on voit, dans toutes les tensions qui existent dans ce monde, géopolitique, au niveau écologique, au niveau de la paix, au niveau de la justice, au niveau du partage des richesses, de la faim dans le monde, enfin, c'est fou. Alors, qu'est-ce que, pauvrement, finalement, l'oblat, il apporte? Moi, je trouve que, finalement... La première chose, c'est que nous cherchons à vivre. Moi, j'ai l'impression qu'on cherche à vivre avec humilité. J'y reviens encore. Les valeurs de respect de l'autre différent. Parce que moi, j'ai été vacciné en Île-de-France du monde de l'entre-soi. On est effectivement en voie du monde, mais c'est de l'entre-soi et finalement de l'individualisme, quoi, en fait. Or, je crois que savoir faire brèche. Et c'est pas si simple que ça, d'arriver finalement à côtoyer des non-croyants. pour moi, j'ai vraiment cette joie d'avoir nombre d'amis qui sont non-croyants ou qui sont dans d'autres philosophies de vie, on va dire, ou d'autres postures de vie. Et Marie-Noëlle, c'est pareil. Enfin, je dirais que c'est bien qu'elle, elle a fait le choix d'être dans un mouvement d'église. Ce qui n'est pas mon cas, Habitat Humanim n'est pas un mouvement d'église, bien que ça ait été fondé par un prêtre, hein, Bernard Devers, enfin, qui est devenu prêtre, voilà, après avoir été promoteur immobilier. Mais voilà, c'est important. Donc, qu'est-ce que l'on apporte là-dedans? Moi, j'aurais tendance à dire que on apporte une capacité d'écoute. Là, je m'appuie vraiment sur ce que disait tout à l'heure Elisabeth, et c'est très vrai, ça. Je crois qu'on a développé, puis même à mon niveau, enfin, on a tous développé une capacité, une empathie, quoi, en fait. Une empathie d'être, finalement, d'écoute des fragilités et de tous ceux qui vivent hors du monde ou au bord du monde et qui, finalement, ne sont pas... Et ça, c'est vrai que dans ce contexte-là, eh bien, on cherche à témoigner une foi heureuse. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me paraît important. C'est-à-dire que c'est une présence qui rayonne. Et c'est ça. Et si je fais ça, c'est bien que je n'ai pas de pins, de croix, de...
Rien voilà. ne montre non, que mais... vous êtes oblat bénédictin.
Non, rien ne hein, regarde tous les deux.
Exactement.
Oui, mais rien de visible. Hein, rien de visible.
Mais j'ai des amis, notamment qui sont diacres, qui m'ont dit « Mais François, pourquoi tu ne portes pas
un signe ?»
Un signe, un symbole, oui.
Mais écoute,
oui.
Moi, je veux le vivre. Ça ne m'intéresse pas de le porter, je veux le vivre dans les relations.
Et le
transmettre, éventuellement, par cela.
Bon, en fait. Oui, par la radio aujourd'hui.
Oui.
Et celles qui vous découvrent peut-être dans cet engagement que vous avez pris à des moments différents de votre parcours de vie. Donc, merci à tous les deux. On arrive à la fin de... On ne peut pas forcément tout dire.
Je dirais quand même, oui. Je dirais que c'est quand même un peu compliqué, ça ma conclusion, de joindre de vie professionnelle, retraité, engagement familial, engagement et vie spirituelle. Donc ce cadre de là, si c'est fabuleux, formidable. Parfois, on se dit, ça fait beaucoup. Parce que les journées ont 24 heures.
Et les journées
heures.
Sont courtes, voilà. Oui, tout à fait.
Donc, ce n'est pas toujours simple, surtout avec une grande famille. Et quand nos enfants, tout en étant respectueux de nos choix, ne les partagent pas forcément tous. Donc, c'est aussi... Mais c'est bien
donc,
ce n'est
pas un long fleuve tranquille, cet engagement. Rien n'est facile.
Mais exactement.
Rien n'est facile.
Exactement. Oui, donc, c'est un chemin...
C'est un renouvellement du oui chaque jour.
Exactement. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup marcher.
C'est un lieu de sanctification. Permettez-moi, parlons de sainteté. Nous avons parlé de la règle de Saint-Benoît et de Saint-Benoît. Est-ce que c'est aussi une porte étroite, cet engagement, pour répondre à cet appel du bon Dieu qui invite finalement ces hommes et ces femmes à devenir saints, au fond?
Je vous laisse cette conclusion.
Alors, pour vous-même, Elisabeth, Bonaventure.
Pour moi, cet engagement, je le vis au quotidien. Non, c'est pas toujours facile, mais je n'ai jamais eu honte de dire je suis oblate.
Ah oui.
Et souvent, non, et je n'ai rien qui le montre. Je n'ai rien qui le montre sur moi. J'ai pas un habit particulier. Mais je suis oblate. Et ça, c'est un titre pour moi qui est important. Et après, pour le vivre des fois, bon, en famille, c'est pas toujours évident, mais j'ai la grâce que mon mari et ma fille, mais des fois, je les aide. Et je me rends compte qu'on les aide, que l'oblature nous permet, cet engagement nous permet, parce que justement, on découvre la lectio divina, parce qu'on découvre l'évangile, de porter, d'aider, de pouvoir aider. Et je le vois au sein de la prison et au sein des familles qu'on accueille.
Donc, on peut entendre aussi qu'il y a aussi cet engagement et ce déploiement aussi missionnaire.
Oui, oui.
Au cœur du monde, dans la société, dans une entreprise.
Oui.
Voilà, ça, c'est aussi les fruits de votre engagement,
et de
François et Elisabeth.
Et de ne pas tomber dans le désespoir quand on voit tout ce qui se passe à l'heure actuelle, ben de dire non, allez, ayons confiance, restons dans l'espoir, battons-nous, on y arrivera, et voilà, il n'y a pas de raison.
Et puis,
Dieu est avec nous.
Dieu est avec nous, donc pèlerin d'espérance.
Il y a la présence de Dieu, moi je l'ai découverte aussi au niveau de l'oblature, la présence continuellement continuelle de Dieu à nos côtés. Ça, c'est quelque chose qui a été vraiment très, très fort, de sentir cette présence de Dieu à nos côtés dans tous les événements que nous vivons dans notre vie.
Alors, c'est la fin, malheureusement, de cette table ronde sur les oblats bénédictins. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout témoigner, mais on a bien entendu aujourd'hui au micro de cette émission spéciale en ce premier jour du Triduum Pascal et en ce jeudi saint, combien il est beau, il est grand de s'engager, parce que les fruits sont aussi la paix, la sérénité et puis
l'amour
et la joie. Avec des cœurs paisibles et sereins et confiants, c'est le témoignage que vous nous rendez. Dernier mot, et c'est la fin de cette émission, Elisabeth Bonaventure.
Dernier mot, eh bien, ayons gardons confiance et croyons en Dieu.
Et pour vous-même.
Dieu est avec nous.
François Bonneux.
Présent à la présence.
Merci infiniment. Chers auditeurs, nous vous souhaitons un beau Triduum Pascal à l'écoute de nos programmes et pendant ces 4 jours, nous restons à l'abbaye de Tournai. Merci Elisabeth Bonaventure et merci François Bonneux.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.